Saint-Exupéry, l'Antoine de Saint-Exupéry.
Bonjour tout le monde, Spectaculaire commence, enfin ce mercredi 6, non, on est une semaine de plus, le 13 février 2019, 14h02, Christophe Rollin au micro, émission numéro 188, consacrée à, je ne sais pas s'il y a des chiffres là-dedans, émission 188, consacrée à GP Georges Perec pour cette OVNI, enfin je ne sais pas, OTNI, objet théâtral, ODNI, objet dramatique non identifié, Un homme qui dort, qui est donné au Théâtre des Marronniers jusqu'à ce vendredi 15 février, c'est à 20h30 en soirée, c'est par Cyril Tournier, metteur en scène, qui est présent, avec également son dramaturge qui est aussi là, donc tous les deux pourront parler de ce spectacle, beau spectacle, prenant, hypnotique, hypnotisant, assez particulier. Bref, nous allons en parler jusqu'à 15h, comme tous les mercredis. A priori, le Blues et Canyon aura bien lieu ensuite, donc on s'arrêtera bien à 15h. Nous allons commencer avec de la musique, pour remuer un petit peu, et parce que c'est tout de même dans le thème, Elle reste à la maison, du général Alcazar, dans l'album Le Rude et le Sensible. Vous nous écoutez, c'est très bien, vous le faites sur la bande lyonnaise, le 102.2 de cette bande FM, ou bien vous le faites sur internet, radiocanu.org.
Et elle reste à la maison. Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes bien sûr Radio Canus en 2.2. Nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui le metteur en scène d'un spectacle donné au Théâtre des Marronniers jusqu'à...
ce vendredi 15 février.
Il reste quelques places ce soir, précipitez-vous, c'est un soliloque, un one-man show, c'est une performance d'acteur, c'est une excellente mise en scène d'après L'homme qui dort de Georges Perec, un grand classique de la littérature contemporaine. Nous recevons donc Cyril Tournier, le metteur en scène, ainsi que le dramaturge Jean-Pierre Bauza-Canella, qui vont nous parler longuement des dessous de cette mise en scène. C'est aussi un film qui a été adapté aussi par Georges Perec et
Bernard
Cézanne.
En 74, c'est quelques
années. Prix Jean Vigo en 74.
Après 67, la publication.
Voilà. Donc on va parler de tout ça. On vient d'écouter l'inénarrable général Alcazar, une petite chanson à Liszt. Hein, c'était un petit clin d'œil aux listes de Georges Perec. Elle reste à la maison avec les allitérations en pas. Voilà, il y en aura d'autres plus tard avec Oh pour la suite de l'émission. Chers invités, qui commence la parole pour se présenter un peu? Comment êtes-vous venu à l'art théâtral? À Perec aussi, mais d'abord.
À Perec ou à l'art théâtral en général? Ben, un petit
Cyril Tournier, donc.
Oui, bonjour. Il m'a été demandé un petit peu de me présenter. Donc. Pour faire un petit peu court, Cyril Tournier, moi je suis metteur en scène depuis de nombreuses années, en ayant d'abord commencé une petite et courte carrière de comédien d'une compagnie qui s'appelle Imaginoir Théâtre et qui existe depuis 1997 sur Lyon et qui a un petit peu écumé tous les théâtres qu'on appelle de l'émergence, Colochard Céleste, Espace 44, Feu La Plate. Théâtre emblématique de Lyon qui n'existe plus, qui est fermé depuis 2009, je crois.
Et Instant T, c'est une compagnie ou c'est une salle,
c'est... Alors Instant T, c'est un théâtre, auquel on n'est pas directement lié, hein, mais on a travaillé un petit peu là-bas aussi en résidence de création avec ce spectacle-là, où on y présente aussi des spectacles d'ateliers, parce qu'on travaille aussi beaucoup à donner des ateliers avec des amateurs.
Et le carré 30, je pense aussi à cet autre.
Alors nous, on n'y est pas passé. On n'a pas fait celui-ci. Non, nous, on est très croix-roussien. On est resté sur les pentes.
Pentes.
Par contre, on n'est pas monté au-dessus des pentes. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu accès au théâtre de la Croix-Rousse. Et puis plus bas non plus. On est resté sur notre portion de pente. Voilà.
Mais,
si, on a un peu coulé dans la vallée et on est allé jusqu'au Marronnier. Alors on est allé, bien entendu, aussi ailleurs. On a aussi tourné des spectacles dans la région lyonnaise et puis un petit peu. Au-delà, et puis on a aussi travaillé au théâtre de l'Iris à Villeurbanne qui nous avait accueillis il y a quelques années. Donc voilà, on a été pendant longtemps aussi une compagnie plutôt de théâtre qu'on pouvait dire militant, engagé. On a beaucoup monté Dario Fo. On a travaillé aussi sur des thématiques comme la souffrance au travail. Et puis on a eu un spectacle aussi d'après les textes d'un auteur quadraplégique qui s'appelait Yves Lacroix. Donc on avait fait aussi un beau spectacle sur le handicap. Voilà, et puis il y a peu de temps, on a travaillé sur un Bohémil Rabal, Une trop brillante solitude. Personnellement, il y a eu une bascule, moi, dans les textes que j'ai eu envie de monter. C'est-à-dire que là, actuellement, je suis plutôt sur des grands soliloques littéraires plutôt que des textes de théâtre. Alors, il n'y a pas qu'une raison économique à ça. Il y en a une aussi, si on met moins de comédiens sur le plateau. Par contre, sur Un homme qui dort, on a augmenté largement les techniciens, on va dire, ou les créateurs techniques.
Vidéo, lumière, son.
Vidéo, lumière, son. Donc, économiquement, c'est la même chose qu'avec beaucoup de comédiens sur un plateau. Mais c'est aussi que là où j'en suis dans ma carrière, on va dire, ma longue ou courte carrière, ça dépend, de metteur en scène, il y a eu une envie de se confronter plutôt à ces moments où certains auteurs font une sorte, pas de bilan, mais en tout cas d'introspection intime qui ont valeur d'universalité. C'est ce qui est venu me percuter finalement dans Un homme qui dort et comment une aventure individuelle peut avoir à un moment une répercussion collective. Voilà, donc pour l'instant, je suis plutôt actuellement sur des grands textes littéraires qui sont des témoignages assez intimes et personnels des auteurs.
Pour aller rechercher dans votre petite enfance ou votre adolescence le moment déclencheur, on vous laisse quelques instants. Peut-être que Jean-Pierre Bauza-Canella, dramaturge sur ce spectacle, peut-être pourriez-vous vous aussi vous présenter de cette manière, c'est très bien, brève,
alors,
complète néanmoins.
Si je dois faire un peu un rétroviseur sur mes antériorités professionnelles et personnelles, Le théâtre, eh ben, écoutez, ça vient, on ne s'y attend pas forcément, c'est que ça vient comme ça. En tout cas, j'ai essayé dans ma carrière, d'abord j'étais pendant 15 ans directeur de Maison de Jeunes à Culture, donc j'étais militant de l'éducation populaire, et j'ai fait en sorte que le théâtre soit une des activités principales des maisons que j'ai dirigées à Saint-Fons et ailleurs, dans les milieux ruraux, milieux urbains, périurbains, petites villes. Donc j'ai fait en sorte que le théâtre soit un des lieux de formation et d'éducation populaire avec des metteurs en scène professionnels et amateurs. Et après, j'étais donc pendant 24 ans administrateur des productions TNP de Villeurbanne, où j'essayais de retrouver ma vocation donc de théâtre envers des publics dits populaires et en même temps une exigence artistique qui est difficile de trouver partout. Voilà. Et donc, après avoir pris ma retraite du TNP, j'ai trouvé dans le travail de Cyril ces deux intérêts, l'éducation populaire et le travail en direction, avec l'exigence que moi j'avais au TNP, mais avec une autre dimension plus personnelle. Si j'ai accepté, si j'ai voulu travailler avec Cyril, c'est que je vais trouver une attention particulière sur le travail du comédien, non pas seulement en tant que professionnel, mais en tant qu'être humain. Et moi, en tant que militant d'éducation populaire, ça importe beaucoup. Et j'ai trouvé la même exigence, des fois plus, à prendre un objet artistique, un objet littéraire, un objet dramatique, avec une exigence maximum, avec des moyens qui sont les siens, mais qui pour moi recoupait à peu près tous les intérêts que j'avais eus, et en tant que militant d'éducation populaire, et en tant qu'administrateur de production d'un grand théâtre.
Vous avez connu Roger Planchon,
bien sûr, bien sûr. J'ai travaillé avec Planchon, j'ai travaillé avec Lavaudan, et j'ai travaillé aussi à Scaretti.
Patrice Chéreau a été à
Lyon. Quand je suis arrivé, il était déjà parti. Donc j'ai pas pu, c'est un grand regret, j'ai pas pu travailler avec Patrick Chéreau.
Et celui qui fonde dans les années 50, c'est
avant à Villeurbanne, Villard. Non, j'étais pas à Villard, était mort quand je suis arrivé au TNP. De toute façon, à Villard,
alors
vous prêtez une antériorité quand même qui dépasse tout à fait mon âge.
Non, mais vous voulez dire, est-ce qu'enfant vous êtes allé à ces spectacles?
Oui, bah là où j'étais dans une petite Montluçon, tout ce qui était les ATP, tout ce qui était théâtre populaire, je l'ai vécu des gamins, et j'essayais de le mettre en œuvre quand j'étais directeur de mes jeunes à Culture, par des ateliers de formation, des tournées, des formations d'amateurs, etc. etc. Et voilà, pour moi, l'éducation populaire et le théâtre ont toujours été de pair. Et le travail que fait Cyril, justement, dans la formation d'ateliers, m'a beaucoup surpris, parce que je trouvais qu'il a une exigence, une précaution, un investissement auprès des comédiens amateurs qui donne que des spectacles que j'ai vus sont d'un niveau professionnel comme j'ai rarement vu quand ce sont ces amateurs qui jouent. Et son travail de directeur d'acteur, pour moi, est une de ses qualités principales que je n'ai pas souvent vu, y compris chez les professionnels.
Je ne vous demanderai pas si vous avez connu celle de la direction d'acteur de Jean-Baptiste Poquelin. Non, c'était très maladroit, ma question, mais c'était seulement est-ce que...
Mais j'ai entendu causer quand même. Hein.
Est-ce que vous étiez...
J'ai entendu causer.
Est-ce que voilà, vous avez pu voir ce spectacle? Moi, je suis arrivé à Lyon un peu tardivement. Cela est vrai, hein, Cyril Tournier. J'ai pu discuter avec Pierre Micheletti, votre comédien, et oui, il m'a dit qu'effectivement, je lui ai dit, vous avez un peu, vous, le rôle compliqué, hein, vous êtes sans arrêt sur scène, tout ça, alors que nous, c'est Cyril Tournier qu'on va recevoir à l'émission, et bon, je l'ai vu, il était à côté de moi pendant la représentation de lundi, il était assis, ça va, hein, c'est plutôt cool, il m'a dit,
tranquille.
Non, il m'a dit, non, il est très investi, il est vraiment... très très proche et très bref, tous les termes que vient d'employer à l'instant Jean-Pierre, c'est voilà, très pas tant, non, vous n'avez pas dit tyrannique et directif, mais non, enfin, très proche de son comédien. Oui, Gérald.
Alors justement, avant de rentrer dans le cœur du sujet, qui est L'homme qui dort, et ce spectacle porté par l'excellent acteur Pierre Micheletti,
oui, Micheletti, il y a des origines italiennes,
il me semblait un peu. Voilà, donc c'était super, moi j'étais hier soir, hein, magnifique, porté par le spectacle, qui donne envie de relire le livre, de voir le film.
Attends Gérald, hein, il faut qu'on aille chercher le moment dans la petite enfance.
Je voulais quand même que nos invités nous précisent la petite différence, parce qu'il y en a forcément une, peut-être même une grande, entre la mise en scène et la dramaturgie quand même. Quel est le rôle de l'un et que fait tu veux que l'un par rapport à l'autre?
La dramaturgie, il y a autant de dramaturges qu'il y a de metteurs en scène, hein, parce que tout dépend du rapport qu'on établit avec le metteur en scène. Grosso modo, la dramaturgie, c'est essayer de fournir au metteur en scène tous les éléments qui sont et dans le texte et à l'extérieur du texte pour nourrir après ces options dramatiques qui sont les siennes. C'est-à-dire qu'il faut faire une étude sur l'histoire, sur la période, sur l'auteur, sa vie, sa biographie, sur l'essence qu'on peut y découvrir dans le texte lui-même, ses connotations ou ses affinités avec d'autres textes. C'est donner, à partir d'un texte, la multiplicité des sens que le metteur en scène a à peu près construire en tant que ligne directrice de sa création. Voilà.
Sans faire contresens, justement, pour éviter, ou les à côté,
après,
bien saisir l'ensemble, les enjeux du texte.
Voit, c'est lui qui voit. Ouais. En tout cas, essayer d'extraire d'un texte tous les matériaux possibles dans le texte, à dehors du texte, et dans la vie et dans l'histoire du créateur de ce texte-là, pour qu'après le metteur en scène y puise et trouve sa propre démarche, son propre cheminement. Et
êtes-vous, alors, avez-vous été amené, Jean-Pierre Bozzacanella, à intervenir auprès de Pierre Micheletti, le comédien sur scène, ou non, justement, voilà, c'est ça, si vous fournissez des éléments à Cyril Tournier, le metteur en scène.
Interdit de répétition.
D'accord.
Ah oui, c'est un travail en amont, on va dire.
C'est un travail humain, je voulais insister les débuts, c'est un travail humain entre le metteur en scène et le comédien, dans lequel je n'interfère pas.
Cyril.
Oui, oui, mais Jean-Pierre a très bien résumé le rôle que nous, on a donné à ce lien entre mise en scène et dramaturgie. La dramaturgie ne se perçoit pas concrètement dans la mise en scène. Par contre, elle vient nourrir à un moment cet objet artistique. Et pour moi, c'est vraiment... Moi, j'ai un rapport plutôt sensoriel, on va dire, avec le texte. Moi, je ne peux monter que des textes qui sont venus me toucher, et pas obligatoirement qu'intellectuellement. Jean-Pierre, par le travail qu'il a fait dramaturge, j'ai venu nourrir, ouvrir mon interprétation du texte, qui à un moment pouvait avoir la limite que je pouvais lui donner, moi. Et donc, comme il avait déjà travaillé aussi avec moi sur Rabal, par son travail d'étude du texte, qui est parfois, qui est même beaucoup plus approfondi que la mienne, et puis par la nourriture qu'il amène à travers tous les textes qu'il a pu glaner, autour, et puis son interprétation propre aussi de l'œuvre, c'est une nourriture, des échanges humains, parfois des désaccords, mais qui viennent à un moment, moi, vraiment venir, qui viennent me nourrir, qui viennent apporter davantage de sens encore et d'essence même au spectacle. Ça me permet vraiment de prendre de la distance, il me permet vraiment de voir l'œuvre d'un peu plus haut que de ma simple vision à moi. Qui n'est pas obligatoirement un travail qu'on a toujours le temps de faire aussi en tant que metteur en scène, et qui n'est pas obligatoirement non plus, comment dire, c'est bien que quelqu'un d'autre le fasse à notre place, pour que ça ouvre un petit peu les champs d'interprétation.
Est-ce qu'il y a une chronologie, c'est-à-dire concrètement, est-ce que lors du travail de répétition, est-ce que vous nourrissez encore Jean-Pierre Bozzacanella, est-ce que vous nourrissiez encore la réflexion, le travail que menait le metteur en scène, vous-même, Cyril Tournier, ou bien à ce moment-là, non, c'était terminé. Enfin, voilà, les éléments avaient été transmis.
On se nourrit tout le temps. La preuve, même là, on a mangé ensemble, et en discutant, il y a même eu l'idée d'un raccord pour ce soir sur la fin du spectacle, que je trouve trop courte, par exemple, et où en discutant un petit peu, je lui demande quel sens tu donnes toi à ce moment-là, et puis voilà, et il y a eu l'idée d'un raccord en disant tu as raison, il faut peut-être que sur cette fin on ait plus de temps, d'ouverture, et voilà, c'est une nourriture constante dans un respect mutuel des rôles de chacun, et Jean-Pierre n'intervient jamais directement sur l'œuvre, n'impose jamais quoi que ce soit, on échange parfois, on n'est pas d'accord de temps en temps, et ça vient vraiment ouvrir les champs. Mais c'est constamment, ça ne s'arrête pas à la première représentation, c'est constamment.
Ça s'appelle le spectacle vivant.
C'est évolutif, voilà. Et en cas de litige, tout se règle dans la plus grande amitié.
Oui, mais c'est le metteur en scène qui choisit à un moment. Il y a un patron, nom de Dieu.
Tu me laisses prendre des risques.
Cyril,
oui.
Il manque peut-être ce dernier instant. Et quoique Jean-Pierre, je ne sais pas si vous l'avez donné, le moment de la... Si, enfin, c'est pas forcément...
L'instant psycho.
Non, c'est pas ça. Mais qu'est-ce qui vous conduit, est-ce que c'est dans les classes, ou est-ce que des vacances scolaires, ou bien un oncle, une tata? Jean-Pierre, vous, Cyril,
ce qui t'a conduit au théâtre, tu veux que j'y réponde d'abord, et puis après, j'y réponds d'abord, et puis après, si tu veux.
J'ai toujours aimé ça, comme tout gamin, je ne sais pas pourquoi. Traumatisme familial, peut-être, est l'origine de ça.
Voilà, certainement. Pareil.
Mais je faisais du théâtre dans mon garage, pour les copains du coin, puis après...
Pas forcément scolaire, quoi, c'était des...
Ah non, j'ai fait du théâtre à l'école.
Mais aussi à côté.
Et à côté, j'ai fait une formation de comédien animateur à Aix-en-Provence. Non, le théâtre a toujours été dans mon parcours personnel et professionnel de bout en bout.
Est-ce que vous alliez voir des spectacles jeunes?
Ah oui, partout où j'étais, il y avait une troupe de théâtre ou de théâtre amateur, oui, j'y étais. Et pour moi, après, être au TNP, c'était comme une consécration, un aboutissement à une carrière, parce que c'est vrai, j'étais toujours admiratif des troupes qui passaient dans mon village, dans ma ville, à Montluçon, dans l'Allier, les ATP, etc. Mais bon, Le TNP n'est pas la seule et unique référence. Il y a de très bonnes choses, puis il y a des choses qui sont un peu conventionnelles. Donc là, je fais l'expérience avec Cyril des choses non conventionnelles, et ça fait beaucoup de bien. Le spectacle que vous avez vu, on peut en témoigner.
Et vous, Cyril, pour arriver enfin, là, c'est calé, hein, Gérald, on va écouter.
Je vais essayer de faire vite, parce que sinon, il va falloir que je reprenne toutes les névroses du petit garçon obèse qui découvre par le théâtre, qui peut attirer l'attention des autres et qui se réalise à travers ça. Donc ça, voilà, ça c'est pour le côté psycho. Après, sinon, on peut rendre hommage aux profs de français qui ont été aussi la prof de français. Qui a été l'élément déclencheur de l'accomplissement de ces névroses et qui m'ont amené d'abord à être comédien, et puis après je me suis assez vite ennuyé en tant que comédien. J'avais d'autres névroses et donc je suis passé à metteur en scène. Voilà.
Vous rappelez-vous quel texte était-ce à ce moment déclencheur, cet instant,
ça a dû être un Molière quelconque, Lavare, c'est montrez-moi ses mains, non les autres, je sais plus lequel
c'est. Ça, c'est Lavare, effectivement.
Ça a dû être un Molière, ouais. Mais c'est pas, je pense que le texte n'est pas très important, c'était vraiment plutôt le fait de plaire à la classe, un petit côté égo qui était bien.
Le théâtre, c'est la vie, ça commence avec les jeux d'enfants, tout est théâtral.
Voilà. Exactement.
Gérald, c'est prêt ? Quel est cet enregistrement ?
C'est un coffret magnifique édité chez André Dimanche, composé de quatre DVD historiques avec un dialogue avec Bernard Noël. Donc 4h20 d'enregistrement.
Et puis,
poésie interrompue, je me souviens, l'écriture des rêves.
Tu as dit DVD, mais CD aussi,
etc. Ouais. Non, CD, que des CD. Deux opuscules à lire, des entretiens. Poésie ininterrompue, inventaire, présentation de Bernard Magnier. Et un entretien Bernard Noël, Georges Perec. Et on va écouter donc un extrait, le début de Poésie ininterrompue, avec un début de L'homme qui dort. Donc.
Spectacle donné actuellement, tu le rappelles ou on
non.
le fait juste après ?
Après.
Plusieurs onzains tirés de alphabet. Très au loin.
Bah, je suis CD1,
dehors, piste 2, parce que ça commence pas tout de suite avec L'homme qui dort. Donc,
mais tu m'as peut-être donné le CD2, non ? Que m'as-tu donné ?
CD1.
Oui, mais alors le CD1, il est placé au CD4. Non, mais c'est pas.
L'ordre, c'est compliqué.
Comment a pensé classer, je paierai que le respect.
Voilà. Et ben voilà, comment classer sa bibliothèque ?
Mais Perec intervient régulièrement dans ce genre de choses, il désordonne.
Eh oui.
Il met le mélange.
Donc on y revient.
Vas-y, on y revient.
Ouais, ça commence avec Poésie ininterrompue, un petit extrait, et après L'homme qui dort, ça enchaîne.
Poésie ininterrompue, Georges Perec.
Un extrait de Un homme qui dort. Plus tard, beaucoup plus tard, tu t'es réveillé plusieurs fois peut-être, rassoupi plusieurs fois, tu t'es tourné du côté droit, du côté gauche, tu t'es mis sur le dos, sur le ventre, peut-être as-tu même allumé la lumière, peut-être as-tu fumé une cigarette. Plus tard, beaucoup plus tard, le sommeil devient une cible, ou plutôt non, au contraire, tu deviens la cible du sommeil. C'est un foyer irradiant, intermittent. Devant toi, ou plus précisément devant tes yeux, parfois plutôt à gauche, parfois plutôt à droite, jamais au centre, une myriade de petits points blancs s'organise, dessinant, à la longue, quelque chose de félin, une tête de panthère vue de profil, qui s'avance, qui grandit en montrant deux crocs acérés, puis disparaît, laissant place à un point lumineux qui grossit, devient losange, étoile, et fonce sur toi très vite, t'évitant au dernier moment en passant à ta droite. Le phénomène se reproduit plusieurs fois, régulièrement. Rien d'abord, puis des points à peine lumineux, une tête de panthère qui s'esquisse, puis se précise, grandit en rugissant, découvrant deux crocs acérés, puis un point scintillant, presque éclatant, qui s'enfle, losange, étoile, puis boule de lumière qui vient sur toi, t'évite de justesse, passant si près de toi que tu as presque cru la toucher, la sentir, l'entendre, puis rien à nouveau, longtemps, des points blancs, la tête de la panthère, l'étoile qui grandit et te frôle. Puis rien, longtemps. Ou bien, plus tard, parfois, quelque part, quelque chose comme un astre blanc qui explose. 4 rêves de Michel Léris.
Voilà, c'était terminé. Donc c'était un entretien avec la voix de Georges Perec. On ne l'a pas rappelé, mais il est né en 1936, mort en 1982, mort à l'âge de 46 ans. Et on écoutait la page 83, version poche de L'Homme qui dort, chez Folio, en poche.
Donc un spectacle qui est donné actuellement au Théâtre des Marronniers, le 7 de la rue des Marronniers, dans le 2e arrondissement. C'est, vous la connaissez cette petite rue, c'était une, elle est mieux que la rue Mercière, non hein, Gérald? C'est une petite rue qui comporte main restaurant, qui se trouve entre Gibert d'un côté et puis l'autre côté, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a. Il y a des brasseries, il me semble. C'est Bellecour, hein, c'est en plein milieu de Bellecour. Ça donne sur... la rue de la Barre et puis la place Antonin Poncet. Donc les réservations, on peut en faire au 04 78 37 98 17. 04 78 37 98 17. Je crois que c'est nécessaire hein, parce que les places, il reste encore ce soir, mercredi 13. Demain, jeudi 14 et vendredi 15 février, c'est à 20h30. Les places, je crois, filent, disparaissent. Et puis la salle est une salle intime. Enfin, du moins, oui. c'est une
la jauge est petite.
C'est une petite salle. Le vendredi est déjà complet. Il doit rester quelques places encore pour demain et aujourd'hui.
On peut également se rendre sur le site théâtre-des-marronniers avec deux R et deux N.com. Prix des places variables, tarif réduit, plein tarif. Mais je suis allé au cinéma dernièrement. Je crois que c'était quoi, 11, 12 euros à 15 euros, c'est pas trop cher. Gérald, ouais.
Ouais, revenons-en à Georges Perec. Alors, est-ce que ce fragment magnifique, très visuel, en plus, on parlera de la scénographie, du travail de vidéo et de mise en lumière, de dramaturgie après, mais c'est très lisse. Et est-ce qu'il figure dans le spectacle ou pas? Parce que c'est quand même un livre qu'on peut lire en 2 heures et quelques, qui fait 150 pages.
Oui.
Est-ce que vous avez gardé l'intégralité du texte? Est-ce que ce passage y figure?
Non, on n'a pas gardé l'intégralité du texte. On en a gardé une heure environ. Donc, on a dû.
Moins la moitié.
Oui, un peu moins de la moitié. On a dû, à contre-cœur, effectuer des coupes pour rendre l'objet abordable en théâtre, j'allais dire. 2h30, enfin 2h à 2h30 de lecture, ça dépend de la vitesse qu'on peut avoir de lecture. Mais le texte, l'oralité du texte ralentissait encore le temps, en tout cas, l'étirait. Et donc, il vaut mieux donner envie de lire l'œuvre en entier que le contraire.
C'est le cas.
Voilà. Donc je préfère que les spectateurs qui viennent n'en aient pas assez et se précipitent sur l'œuvre.
Il y a une petite boutique. Pour aller
découvrir l'intégralité du texte, puisque le spectacle en lui-même est intéressant, mais n'est pas l'intégralité du texte. Et il faut vraiment encourager les gens qui viendraient voir le spectacle à aller se plonger dans l'œuvre dans sa globalité.
Peut-être, Gérald, faut-il...
Un grand compliment.
Ouais, c'est une bonne chose.
Parce qu'il donne vraiment envie de lire et de relire ce livre.
Peut-être faut-il demander au dramaturge un peu de présenter cette œuvre, publiée en 67. Le prix Jean Vigo, c'est pour le film qui est fait 7 ans après. Cette œuvre, c'est dans les premières années de Perec, quand il publie.
Après les choses, je crois, c'est le deuxième bouquin. C'est le deuxième bouquin après les choses qui a fait un peu parler de lui.
Il obtient un prix pour les choses, hein, je crois.
Les choses, je crois qu'il obtient un prix.
Le prix Renaudot.
Oui, je ne me souviens plus, peut-être bien. Et ce texte, c'est le contre-pied, mais Perec passe son temps à faire du contre-pied de ses œuvres précédentes. Les choses, au contraire... d'une certaine manière magnifie, mais avec des guillemets, la consommation en la poussant à son extrême, c'est-à-dire que dans les années 60, au sortir de la guerre, les biens deviennent tout d'un coup accessibles, des biens de consommation, mais aussi des biens de décoration, des biens de vie, des biens de loisirs, etc. Et là, dans les choses, autant il en fait un développement presque, comment dire, jusqu'à, pas l'écœurement, mais au moins avec une surabondance, qui fait qu'on s'aperçoit qu'on est dans une consommation excessive et que tout d'un coup on perd un peu le sens de la vie. C'est ce que dans les choses Perec essaie de montrer. Autant dans Un homme qui dort, il prend le contre-pied, c'est-à-dire qu'il s'éloigne, il met à distance tout ce qui est le quotidien de cette vie, tout ce qui est la consommation, il le reflue, il le met à distance, il veut s'en éloigner parce que la société telle qu'il la vit à cette époque-là, en 67, ne lui convient plus. Elle est pour lui l'objet de pression, de contraintes, d'exacerbation des conflits, et il ne le supporte plus. Donc c'est un peu le contre-pied des choses qu'on a dans L'Homme qui dort. Voilà, L'Homme qui dort, grosso modo, c'est quelqu'un qui, depuis un certain temps, vit assez mal la société dans laquelle il vit, et qui, au bout d'un moment, cette saturation se manifeste par son refus d'aller à un examen de sociologie qui, normalement, devait le préparer préparer peut-être à des études plus longues, mais là, il y met fin. Et toute la démarche de cet homme qui dort, qui s'adresse à lui-même en mettant une distance, en disant le « tu », et l'une des originalités de ce texte, c'est que c'est pas le « je », c'est le « tu », il y a une mise à distance, et ça peut s'adresser à n'importe qui, on ne sait pas qui est le « tu », mais en tout cas, ça permet une espèce d'infiltration, comment dire, d'une mise à distance, d'un jugement, d'un recul par rapport à tout ce qui est dit. Eh bien, tout ce texte-là met à distance tout ce qui l'éloigne de lui-même et en même temps, il s'éloigne du monde pour mieux se retrouver à la fin. Ça, c'est vite fait, vite dit. Cyril pourra le commenter un peu mieux que moi.
Ou pas.
C'est le premier à faire ça, Pérec, dans la littérature contemporaine ?
Ah, il y a Butor avec la modification.
Il y a Butor qui le fait.
Il le reprend d'un autre auteur.
Il y en a d'autres qui l'ont fait après. Il y a d'autres qui l'ont fait après. Il y a un bouquin qui vient de sortir. Par exemple, l'histoire de ta bêtise qui vient de sortir à l'instant. Que vous connaissez, non ?
Non.
Non, eh bien, écoutez. Ça vient de sortir. L'histoire de ta bêtise de. Comment il s'appelle ?
Bigodeau.
Voilà. L'histoire de bêtise où effectivement il parle du tu.
D'accord.
Tu ceci, tu cela. Mmh. Et le tu est effectivement est l'emblème du petit bourgeois de gauche.
Voilà. dans le texte, en fait, ce que vous avez dit à l'instant, ce que vous avez présenté du personnage, on le devine parce que, on le devine, on le comprend, c'est indiqué avec ce fameux tu là. Je suis au tout début. Tu es assis, torse nu, vêtu seulement d'un pantalon de pyjama, dans ta robe, dans ta chambre de bonne, sur l'étroite banquette qui te sert de lit, un livre, Les leçons sur la société industrielle de Raymond Aron, posé sur tes genoux, ouvert à la page.
112.
Effectivement, bravo, bonne réponse.
Et le spectacle commence comme ça d'ailleurs.
Oui, c'est les premiers moments du spectacle. Qui ne sont pas les premières pages du
spectacle. D'accord, voilà, c'est pour ça que je précise.
Il n'y a qu'un seul passage qui a été sabré de manière très très correcte et propre, puisqu'il y a.
Mais coupé.
Voilà, coupé.
Pas sabré, c'est violent.
Oui, il y a l'autre terme, caviardé ou je ne sais plus.
Peut-être.
Effectivement, faisons attention aux mots que nous utilisons, surtout avec Pérec. Il y a une petite étoile qui indique presque que l'on pouvait peut-être retirer ce premier passage. Et puis un peu plus loin, on trouve plus tard, le jour de ton examen arrive et tu ne te lèves pas. Donc c'est vrai que c'est presque comme ça, effectivement, qu'on comprend que ce personnage, cet étudiant, etc. Bref.
Le synopsis, le scénario est vraiment basique, il tient en deux lignes, en fait, c'est ça. Mais après, bon, il y a toute la richesse littéraire, philosophique, poétique du génial écrivain qu'est Pérec, quand même. Mmh. On a tendance à l'oublier, qui n'est pas que formaliste, loin de là. Et on voit avec cette œuvre très forte, très puissante, et très bien interprétée par vous-même, par vous tous. Là.
Et alors, comment ça se passe sur scène, Cyril Tournier ? C'est donc Pierre Micheletti
c'est
sur
ça.
Scène.
Il ne fait rien du tout. Il fait rien du tout. C'est la mise en scène la plus minimaliste que j'ai pu faire. Il n'est pas tout seul sur scène parce que tout ce qui est création technique a une vraie place. Il a comme partenaire de la vidéo, de la lumière, du son et puis bien entendu aussi le texte de Pérec. Effectivement, moi, c'est un texte qui était pour moi un texte non théâtral de façon vraiment absolue et je me suis lancé un défi parce que je voulais absolument à un moment me confronter à ce texte, et c'est quand même à la base un texte de la non-action, en tout cas amené comme tel, même si le personnage fait énormément d'efforts et qu'il y a énormément de verbes d'action dans cette œuvre, donc il fait énormément d'efforts pour ne pas en faire, pour se retirer du monde. Il y avait une envie d'aller se confronter à ce texte-là, et au fil des répétitions, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas faire bien autre chose de laisser le texte s'exprimer et que on a pris le parti de ne pas jouer le personnage, ce qui peut paraître compliqué, mais de simplement laisser le texte s'exprimer. Donc Pierre Micheletti joue effectivement, mais il est un peu plus proche du concertiste du comédien qui incarnerait un personnage. Pour moi, il incarne un texte plutôt que d'incarner un personnage. Tout ce qui était de l'ordre de l'incarnation du personnage physiquement dans ses actes venait entraver le texte. Et tout était présent dans la poésie du texte, dans la rythmique, dans les allitérations, les assonances, dans le choix des mots que Pérec fait, qui ne sont pas les mêmes, parce que le synopsis est effectivement rapide, mais il y a tout un parcours, entre guillemets, initiatique, peut-être, de ce personnage dans cette quête de ce retrait du monde qui fait que c'est un cheminement riche en ressenti, en émotion, et alors que par son retrait du monde, il aimerait ne plus rien sentir et ressentir, il se rend compte que c'est le contraire qui va lui arriver, et même parfois dans des sentiments et des émotions qu'il aurait préféré garder tapis dans sa propre pénombre.
C'est une sorte de mise en abîme, et à un moment vient l'oxymore d'une douce terreur.
Oui.
C'est ça. Mise en abîme de soi-même, désir de plus après, avoir désir de se retirer du monde.
Après, c'est la richesse de ce texte. On a pu le voir aussi en discutant avec Claude Burgelin, qui est un spécialiste de Pérec universitaire, qui sera là aussi jeudi à l'issue du spectacle pour une rencontre avec l'ensemble de l'équipe. Ce texte, il y a vraiment une richesse d'interprétation. Et chacun, en dehors peut-être d'une interprétation plus intellectuelle ou universitaire qu'on pourrait en faire, chacun vient l'interpréter comme il le sent. Et c'est ce qu'on a cherché aussi à faire avec la mise en scène, en laissant vraiment une place à l'émotivité personnelle. Tout est plutôt abstrait. Même la vidéo, moi j'avais beaucoup d'appréhension à travailler avec de la vidéo. C'est la première fois dans une mise en scène que je mets de la vidéo. Je vais d'ailleurs citer Catherine Demeure, qui a réalisé la vidéo, Vincent Morland qui a fait les lumières, et Chloé Barbe qui a travaillé sur le son. Tout ça de façon très minimaliste. J'ai eu affaire à des créateurs qui acceptaient une construction collective et d'en mettre finalement le moins possible sur le plateau pour qu'on trouve une juste harmonie avec ce texte qui lui prend une place et qui est vraiment, en tout cas pour nous, moi j'aime bien le mot aussi étrangéisé, c'est-à-dire qu'il est rendu aussi étrange. Il est rendu étrange par tout le travail technique qui n'est pas là pour donner, pour imposer un sens, mais qui est plutôt là pour permettre au spectateur justement de ressentir aussi, j'allais presque dire viscéralement, le texte, puisqu'on travaille aussi sur grâce à la vidéo, sur un petit peu une notion non pas d'hypnose, mais
gangrène psychologique.
Peut-être. En tout cas, tout ce qui est son, lumière et vidéo sert vraiment à aller toucher le spectateur dans son émotion et faire en sorte qu'il dépose un petit peu le temps du spectacle, l'intellect, et qu'il revienne après. Mais vraiment qu'il se laisse porter. Et c'était très difficile pour nous aussi, puisque c'est quand même pour moi un récit des sens. Même s'il y a beaucoup de mots, le personnage passe par beaucoup d'états émotionnels très variés. Il est très difficile au théâtre de faire toucher cette sensation de torpeur. Donc tout est travaillé aussi pour amener dans le rythme, dans le son. On a au début une goutte d'eau qui tombe régulièrement. Voilà, tout a été amené pour être sur le fil du rasoir par rapport à ces énergies, ces émotions que ressent le personnage et que je voulais absolument essayer d'apporter aux spectateurs.
Voilà. Alors curieusement, on parlait en tête avant l'émission que votre non-désir de voir la totalité du film, mais des extraits, et curieusement il y a des ponts à faire vraiment évidents entre la création vidéo de Catherine Demeure, qui sont un processus biologique, végétatif, qui évolue.
On ne va pas spoiler, mais c'est vrai que le personnage parle de sa vie végétale.
Et on retrouve toute cette passion pour le trajet inutile d'une mouche, des choses comme ça, une fissure dans un mur qui grandit. Donc on est dans cet univers végétatif qui a une présence mystérieuse aussi fantomatique. Et c'est magnifiquement traduit par cette création vidéo. Ça part, et on retrouve quelques plans dans le film aussi.
D'accord.
De fissures, de gouttes d'eau, d'un robinet qui tombe.
Parce que vraiment, nous, on a cherché, en ayant coupé du texte, il y avait une grande partie de ce qu'on a coupé. À un moment, moi, je le voulais aussi présent sur le plateau, et donc la vidéo a servi un petit peu à ça. Il y a des grands moments de description qu'on peut avoir aussi du personnage qui regarde les fissures de son plafond ou la lumière. Et la vidéo nous permet d'apporter aussi, non pas par le texte, mais par l'image, ce qu'on a coupé du texte et qui est malgré tout présent. Pareil pour le son, et pareil pour le peu de lumière en projecteur qu'il y a.
Et puis, il n'y a pas de redondance, en fait. Donc ça,
on a essayé de trouver cohérent. Un juste équilibre, une juste harmonie.
Voilà, c'est ça, ouais. Et ça marche très bien, ça.
Bah,
et puis le texte est vraiment au cœur du spectacle.
Oui, par contre, c'est vraiment tout est né du texte. Il n'y a rien qui a été. Enfin, moi, j'ai plutôt tendance à dire, avec une formule un peu toute faite, mais que c'est pas je ne crée pas une œuvre, c'est l'œuvre qui me crée. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est se rendre disponible aussi à ce que le texte vient susciter chez chacun des créateurs du spectacle. Et ça s'est vraiment fait comme ça. C'est vraiment le texte qui a été. Le lead de ce travail là et tout est né de ce travail avec le texte. On n'a rien prévu vraiment avant.
Voilà. Jean-Pierre, des mots pour commenter? Je vous vois écouter, mais
on commence à savoir ce que l'autre va dire, hein.
On est déjà comme un vieux couple.
Mais on se surprend encore. J'essaye toujours dans une œuvre, quelle qu'elle soit, de voir en quoi elle peut ouvrir des passerelles critiques sur le temps contemporain et sur notre vie. Voilà. Et là, dans ce texte-là, j'ai trouvé qu'il résumait bien un profil de l'homme moderne, voilà. Qui date quand même, c'est pas si vieux, hein, c'est peut-être des Lumières ou un petit peu après, c'est-à-dire que, et ça s'est après confirmé dans le suite de l'histoire des idéologies de la société, c'est que l'homme moderne pense qu'à lui tout seul, il peut s'abstraire du monde et que le monde, d'une certaine manière, n'est pas à sa disposition, mais qu'il peut en faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que, et il en fait l'expérience douloureuse, c'est-à-dire qu'il pense qu'il est dans une espèce de toute-puissance qui lui fait croire que ben, si le monde il est embêtant, il est contraignant, tout ça, eh bien, il peut s'en éloigner et s'en abstraire et faire fi de tout son environnement social et politique. Et là, je crois que c'est une impulsion et une puissance que n'avaient pas les hommes des siècles passés, au XVIIe et au XVIIIe, et que là, c'est plutôt, comment dire, l'apologie de la toute-puissance de l'homme moderne qui, malheureusement, enfin là, malheureusement, heureusement aussi, et voit l'échec, puisque le monde, c'est celui qu'on a en soi. Quand on veut s'extirper du monde, on s'extirpe de monde que nous percevons intimement. Et c'est la perception du monde que nous avons en nous qui fait qu'on ne se supporte plus non plus. Donc, si vous voulez, ça met en exergue, si vous voulez, le fait que l'homme moderne, qu'il veuille ou non, il est fait de l'histoire passée, de l'histoire présente, et qu'il doit aussi, à travers ça, profiler une histoire moderne et à venir, et qu'il n'a pas d'autre solution pour vivre au monde que d'y être. Et c'est ce que dit Pérec quand il parle de son propre texte. Il dit à ce moment-là, je vais retrouver sa citation.
Le dramaturge voilà, en plein travail.
Il parle de son personnage. Il a fait le tour d'une possibilité. Il est maintenant réuni à lui-même et à la vie. Quand il revient à la ville, c'est qu'il est capable d'affronter le monde. Voilà, c'est Pérec, justement, c'est dans Jeune Cinéma, en parlant de son film. Donc voilà, ça c'est en résumé, c'est absolument ce que Pérec veut faire dire à son personnage. Et pour moi, c'est le symptôme d'un homme surpuissant qui veut s'abstraire du monde alors qu'il n'a aucune possibilité de le faire, qu'on le veuille ou non, ou alors à ses dépens, et c'est très dramatique. Parce qu'il dit aussi, il ne faut pas se réfugier dans la folie. Il y a un moment, il dit, je ne retrouve plus. Excusez-moi, je n'ai pas tous les textes de Pérec en tête. Je le retrouverai peut-être tout à l'heure. Voilà. Où il dit que de toute façon, ça ne sert à rien de se réfugier dans la folie. Il vaut mieux se coltiner au monde plutôt que d'aller dans la folie. Grosso modo, c'est ça.
Ce qui l'approche, hein, le personnage l'approche. Oui, cette folie-là, son parcours l'amène vraiment dans des retranchements limites, où le basculement peut se faire.
Oui. Excessif dans la réclusion volontaire.
Oui, bien sûr, et ça peut le faire basculer très très vite.
Mais on peut dire que c'est un texte de crise. À l'époque, Georges Perec n'a pas commencé sa psychanalyse, il est complètement torturé par son histoire familiale, peut-être.
Il l'a fait en 1956.
Ah, s'il l'a fait.
Donc il y a là-dedans, effectivement, des choses qui peuvent avoir des réminiscences de sa connaissance personnelle de lui-même, de ses angoisses.
Oui, les rapporteurs d'étoiles, par exemple.
Voilà, effectivement.
Il y a un passage très plein de colère, de hargne, oui, antisociale, certains passages énervés.
C'est porteur d'invisibles étoiles,
les
rats, les monstres, qui font aussi référence à son histoire personnelle.
Oui, parce que Pérec est d'origine juive, il a perdu son père et sa mère pendant la guerre 39-40, et dans le bouquin, il y a des proximités presque symboliques, mais un peu plus, à cette vie-là, quand il parle des rats. Alors, en général, ces angoisses, il me semble, ces angoisses commencent à un moment où les rats reviennent vers lui.
Oui, les rats, les monstres.
Voilà, les monstres. Donc, si vous voulez, il assimile les rats au début de ses angoisses. Et en fait, les rats, sous les régimes fascistes et nazis, c'était les juifs.
Bien avant Mauss.
Voilà. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose de son angoisse, de sa peur, de ces monstres qui renaissent, justement par la réapparition des rats qui viennent... prendre le vide qu'il a laissé entre le monde et lui.
On voit très bien ça dans L'œil de Vichy de Chabrol, justement. Oui. Ces images de propagande des années 40 qui assimilent, comme traditionnellement, des régimes qui veulent génocider les autres.
Donc il a besoin du monde aussi pour extirper aussi les angoisses d'un passé qui l'obsède et desquelles il n'a pas pu complètement assimiler du fait de ses morts de ses parents, dont il est orphelin.
Mm-hmm.
Il est orphelin
sa
très
mère,
tôt.
C'est ça.
Donc effectivement, son orphelinat lui pèse beaucoup et ses rats pour lui, lui font revenir un passé douloureux de parents qui sont morts sous le nazisme.
Voilà.
Tu les suis, tu les épies, tu les hais, monstres tapis dans leur chambre de bonne, monstres en chaussons qui traînent leurs pieds près des marchés putrides, monstres aux yeux glauques de l'emproi, monstres aux gestes mécaniques, monstres radotants. On va faire une pause musicale, comme ça on pourra évoquer ensuite Pierre Micheletti, parce que là c'est absolument affreux ce que je fais, c'est moi qui lis du Pérec, mais il faut pas m'entendre lire du Pérec, il faut plutôt écouter, voir, c'est ça qui est intéressant, il faut voir le texte porté par Pierre Micheletti au Théâtre des Marronniers. Ça a commencé le 11 février, ça se termine ce vendredi 15, c'est à 20h30, 7 rue des Marronniers. Donc écoutons Vertige des Lenteurs, c'est ça, c'est un morceau intéressant, De l'eau. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez évoqué la création sonore, c'est ça, Cyril Tournier, vous disiez que c'est Chloé Barbe qui fait ce bruit de goutte. Je ne sais pas à quoi ressemble ce morceau.
De l'eau, c'est la goutte d'eau de Pérec. Bon.
Oui, bien
dans
sûr.
Dans nos yeux, c'est l'eau qui rêve, Bachelard. D'accord. Aussi.
C'est un texte. Marcel Canche, tu m'as dit, c'est ça?
Marcel Canche, un compositeur, interprète, auteur, pas très connu en France, mais qui a des très beaux textes et très mélancoliques et intéressants, j'ai trouvé, à mettre en lien avec Pérec.
J'aurais pu
voilà, on parlait hors antenne et pour résumer en fait,
oui,
cette crise, cet voilà, homme en crise dans un monde de crise.
Un homme qui dort donc.
Un homme qui dort de Pérec.
Pour revenir au texte de Pérec, une des leçons, enfin, un des sens qu'on peut trouver à ce texte-là, Il y en a beaucoup, oui. Plus, il y en a beaucoup, mais disons que...
Jean-Pierre Bozacanella, dramaturge pour le spectacle.
Cette démarche permet de dire qu'effectivement, le personnage, à vouloir se mettre à distance du monde, de la société et des autres, il crée en lui-même un vide, une absence, qui tout d'un coup fait remonter en lui toutes les angoisses qu'il n'arrive plus à gérer. Et quand on est seul à faire des angoisses, qu'on n'a plus d'environnement social, c'est vachement dur. Donc on s'aperçoit qu'on a besoin du social, on a besoin du monde pour apprendre à gérer, pour dissoudre un peu les angoisses que seul on n'arrive pas à gérer quand on est à la solitude de ses propres angoisses qui ressurgissent. Et que la société est là pour réguler pratiquement les angoisses de chacun.
Mmh. Par le travail, c'était un grand travailleur, Pérec.
Le travail peut provoquer d'autres, des angoisses.
Oui, bien sûr.
Bon, mais disons que c'est peut-être le brassage d'angoisses qui fait qu'une angoisse personnelle intime qu'on n'arrive pas à gérer tout seul permet de prendre place, ou mieux, d'autres angoisses que la société... vous envoie. Et donc, c'est ces contradictions-là qu'un homme gère socialement et intimement.
Toute sa vie. Voilà. Un homme en crise, dans une société en crise. Bernard Noël, dans le livre d'entretien dont je parlais au début de l'émission, lui pose cette question. Il y a dans Un homme qui dort une très belle page sur le regard. On a écouté un bon début sur le regard aussi. Le regard inévitable, son propre regard qui vous regarde. Je me suis demandé quel était le lien finalement avec ces jeux. Il m'a semblé qu'il y en avait un sans que je réussisse à l'éclaircir. Georges Perec répond, les jeux, c'est une chose. C'est très, comment dire, c'est très protecteur. Ça fonctionne comme un alibi, un peu. Dans les cas extrêmes, quand ça devient dangereux, à ce moment-là, les contraintes se dissimulent.
Voilà.
Par exemple, dans W, qui pour moi est un livre crucial, où je maniais une matière, un dire qui était moi, la contrainte devient le livre même, devient la nécessité d'une parole intacte. J'ai fait sous forme de poème hétérogrammatique un livre qui s'appelle La Clôture, et qui concerne la rue où je suis né. C'est là qu'apparaît pour moi, de la manière la plus éclairante, la relation qu'il y a entre le travail avec les règles et les contraintes, et ce que je cherche à dire. Ouais, on ne peut pas faire de Perec un formaliste, absolument. Loin de là, parce que ses formes et ses contraintes sont chargées d'un sens très puissant et très profond.
Tu as 25 ans et 29 dents, 3 chemises et 8 chaussettes.
8 chaussettes.
Même c'est passé à 8 ici.
Ouais. C'est passé quelques à 8 livres, sur le prospectus.
Quelques livres que tu ne lis plus, quelques disques que tu n'écoutes plus. Tu es assis et tu ne veux qu'attendre, attendre seulement, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à attendre. C'est en ces termes que le narrateur s'adresse à lui-même, c'est toujours extrait de ce petit flyer qui est très très bien, qui est très complet. Un homme qui dort étudiant en sociologie, le matin de ses examens, décide de ne pas s'y rendre. Il reste au lit parce que son implication dans le monde des humains est source de tous ses maux, de ses désillusions. Il décide activement de se désactiver, méthodiquement, scrupuleusement, de se désensibiliser. Il va alors se laisser envahir par la torpeur et faire l'expérience de l'indifférence absolue. Texte de Georges Perec. Tu as dit d'après tout à l'heure, Gérard, hein, je suis un peu gêné. C'est bien le texte de Perec, oui. Après, bien entendu, voilà, vous l'avez indiqué.
Du moment où on a coupé, du moment. Chaque montage est déjà une interprétation, donc c'est d'après.
Il n'y a pas de réécriture.
Non, pas du tout.
C'est bien la compagnie Imagineur Théâtre. Le jeu sur scène se trouve Pierre Micheletti. Mise en scène, c'est vous, Cyril Tournier. Vidéo, Catherine Demeure, nous l'avons nommé tout à l'heure. Lumière et son, Vincent Morland pour la lumière. Chloé Barbe pour le son et la dramaturgie que nous recevons. Jean-Pierre Bozacanella, c'est au Théâtre des Marronniers, c'est jusqu'à ce vendredi 15 février, 7 rue des Marronniers. Numéro de téléphone, j'ai indiqué tout à l'heure, 04 78 37 98 17, ou bien le site théâtre-des-marronniers.com. Peut-être, effectivement, avez-vous le sentiment, Cyril, qu'on accélère un peu la fin, mais c'est...
Ah non, pas du tout, c'est parce que je devais partir à 15h que je regardais, mais je suis très très bien en votre compagnie.
Mais de quoi parlons-nous pour terminer ?
Si je pouvais rester, de ce que vous voulez.
Bien, est-ce que ça pourrait être repris, pas tout de suite, peut-être, si non, oui, enfin du moins...
C'est alors, on aimerait beaucoup, on pourrait parler de la suite, on aimerait beaucoup, c'est vraiment un spectacle qui nous tient à cœur, c'est peut-être, même pour la compagnie, c'est peut-être un moment charnière aussi dans notre identité artistique, maintenant... On ne va pas faire de politique culturelle, mais il est très compliqué de trouver des lieux qui puissent accueillir ce genre de spectacle. On a la chance d'avoir le Théâtre des Marronniers qui nous suit depuis deux créations et qui nous permet de travailler et d'aller vers ce qu'on a envie de faire.
Merci à Yves.
C'est Yves Pignard et toute son équipe, Vincent, Fanny, Christophe. Enfin, voilà, il y a toute une équipe qui est quand même au service des compagnies qu'elle reçoit. Et effectivement, qui nous ont fait sur ce spectacle-là une confiance aveugle par rapport à. Oui, bah, tant mieux.
Le spectacle marche.
Tant mieux. Oui, le spectacle fonctionne bien. On aurait aimé avoir un peu plus de dates, mais voilà, les contraintes sont telles qu'effectivement, on peut craindre qu'un Perec ne rassemble pas assez de monde sur deux semaines, mais que d'autres auteurs arrivent à remplir davantage. C'est comme ça que ça se passe. Donc. On espère trouver d'autres dates. Maintenant, ça nous appartient pas totalement. Il faudrait que les programmateurs viennent. Il faudrait. En tout cas, cette fois-ci, on a essayé de pas se formaliser et de faire le spectacle qu'on avait envie de faire sans. Parce que parfois, on peut faire ça dans le théâtre, c'est-à-dire qu'on peut réfléchir ses projets en fonction des capacités à faire tourner celui-ci. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe actuellement. Vous avez souvent les mêmes auteurs ou les mêmes classiques ou les mêmes formats. Voilà. Pas entièrement, hein, mais ça se ressemble un petit peu tout. Mm-hmm. Donc voilà, cette fois-ci, nous, ce n'est pas pour dire qu'on était singulier, mais l'envie a été de faire une œuvre intime sans se préoccuper du marché culturel.
Et c'est magnifique. À bon auditeur et à bon programmateur, salut. Parce que c'est un magnifique spectacle qui mérite de continuer à tourner, à exister. Et ça me rappelle une émission qu'on avait faite déjà il y a un certain temps maintenant, Christophe. La demande d'augmentation de salaire avait été adaptée au théâtre l'année dernière. Je renvoie à nos archives sur notre blog.
Un texte de Pérec également.
Parce que Pérec se prête à tellement de choses. Mmh. C'est tellement prodigieux, comme tu le dis souvent, ton mot préféré, Christophe. C'est vertigineux, la création, la variété de sa prolifique, de son œuvre.
On a évoqué le texte avec toutes ces répétitions.
Puis on pourrait en parler pendant des heures et des heures, c'est riche, tellement c'est profond.
Vous l'avez tout de même dit tout à l'heure, Cyril, les mots choisis. Les mots, vous avez tout de même eu une expression.
C'est poème dramatique, comme dit Jean-Pierre. Et effectivement, je pense que tout est dans l'œuvre. Vraiment, son poème, parce qu'il y a une rythmique, parce qu'il y a du son. Parce qu'il y a de la vibration à travers les mots et c'est une vraie partition, c'est ce qu'on disait avec Pierre Micheletti, quand t'as du Mozart, bah, tu peux rien faire d'autre que jouer du Mozart, et bien là quand t'as du Pérec, tu es obligé de jouer Pérec, et le comédien, comme l'ensemble de l'équipe, doit se mettre derrière l'œuvre, derrière l'auteur, et pas devant,
au service, en espérant, en tout cas,
Sincèrement, au service de, Pérec sera jamais là pour dire si on a respecté son œuvre, en tout cas on l'a fait avec respect. L'avons-nous respecté? Je ne sais pas, mais nous l'avons fait avec un profond respect.
Et il faut le voir, parce que le lire chez soi, c'est ce que j'ai fait moi, c'est peut-être un peu difficile. Le voir le film, le film dessert. Moi, je ne suis pas d'accord.
Non, ça, on en reparlera. On fera une autre émission.
Sur le film.
Il faut le voir sur scène avec Pierre Micheletti. On peut également voir sur scène au Théâtre des Célestins Thieste, une pièce de Sénèque. On peut aussi aller voir au Théâtre de la Croix-Rousse. On peut aller voir Roméo et Juliette. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Ce sont des reprises. Thieste est un spectacle qui voyage.
Sénèque et Shakespeare. Et Pérec. Vous pouvez choisir entre Sénèque, Shakespeare et Pérec.
Ellis Island, le deuxième film de Georges Pérec avec Kézanne, qui est excellent aussi.
Il y a aussi au Théâtre de la Renaissance à Oulin, il y a L'Appel de la Forêt, un beau spectacle pour enfants qui... je ne sais pas s'il sera amené à se déplacer, mais c'est intéressant, auditeurs, auditrices, soyez attentifs, attentives à ces questions de dans quel lieu se rendre et quel type de spectacle voir. Jean-Pierre, on termine? Oui, on se dit au revoir.
Oui, on peut se dire au revoir et puis
on rentre à la maison.
Marronnier, et puis voilà, tous ceux qui sont curieux de théâtre et qui sont curieux de trouver des choses qu'on ne voit pas forcément facilement, qui veulent faire l'expérience unique et parfois risquée de voir quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs, il faut venir au Marronnier voir un homme qui dort, parce que c'est vrai, c'est original, c'est un objet artistique non identifié, mais que le public saura facilement identifier par lui-même.
Il est impossible de s'y endormir. Hein.
Les auditeurs auront reconnu que moi je suis en train de lancer le générique. Les auditeurs auditrices
auront
reconnu
ce générique.
Merci à vous pour votre invitation.
Le blues des Canuts est prêt. À venir ensuite, on n'arrête pas le prog à 17h, le Mayday à 18h et puis Canuts Info à 19h. Merci Cyril, merci Jean-Pierre.
Merci à vous.
On se reverra une autre fois. Imaginoire. Imaginoire, il y aura d'autres spectacles à venir.
Bah écoutez, l'avenir le dira.
Je garde vos coordonnées.
Ouais, super.
Gérald, la semaine prochaine, relâche. La semaine suivante, relâche aussi. Et on se revoit le 6 mars pour spectacle particulier aussi, de la danse ou performance. Mais si, rappelle-toi.
Profitez bien du soleil, en tout cas.
Profitez du soleil. Sortez, faites ce que vous souhaitez. Restez à l'écoute.
En attendant que la pluie, place Clichy,
voilà.
S'arrête.
Ah, voilà.
Ce sont les mots de la fin. Au revoir tout le monde. Restez à l'écoute des programmes de Radio Canut. Bye bye.
Merci.